Laudetur Jesus Christus.
Un sommet régional consacré à la crise des Grands Lacs aura lieu samedi prochain en Tanzanie. Il doit réunir notamment les présidents congolais et rwandais, alors que les combats déchirent toujours les provinces du Nord et Sud-Kivu. Direction Goma au début de ce journal, où la vie tente de reprendre son cours une semaine après sa chute aux mains des rebelles. Il n'y aura pas de guerre commerciale entre les États-Unis et ses voisins canadiens et mexicains, pas tout de suite en tout cas. Donald Trump a décidé de faire une pause de 30 jours avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers. Dans ce journal également, reportage en Syrie où les villes à majorité arabe demandent à être administrées par le nouveau gouvernement intérimaire, y compris dans les zones dominées par les Kurdes. Et puis dans notre dossier, direction ce matin la Birmanie où 4 ans après le coup d'état militaire, le pays s'enlise dans la guerre civile. La junte doit faire front à une multiplication des groupes armés qui résistent.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame attendus le week-end prochain pour un sommet régional en Tanzanie. Un sommet consacré à la guerre qui ravage l'est de la République démocratique du Congo, où l'armée congolaise combat toujours les rebelles du M23 soutenus par les soldats rwandais. Cette guerre qui est ancienne fait craindre un embrasement régional. Et ces dernières heures, le M23 s'est rapproché de la ville de Bukavu, la capitale du Sud Kivu, alors que dans la grande ville de Goma, plus au nord, tombée il y a une semaine aux mains des rebelles, la vie revient peu à peu à la normale après des heures de chaos. Le récit de notre correspondant sur place, Augustin Mossangué.
Goma reprend son souffle après une semaine d'étouffement. La ville est presque en général calme. Une femme petite commerçante qui étale déjà ses différents produits devant sa porte m'église une petite phrase. L'essentiel, c'est d'être en vie. Sur les artères principales de la ville, les corps de victimes, les munitions abandonnées ont été ramassés. Lundi 3 février, les commerces ont rouvert. L'heure est au constat. Ceux qui ont vu leurs boutiques vandalisées tentent de se reconstruire. Les écoles, les banques, les institutions étatiques sont fermées. Dans les rues, tout le monde s'accroche aux nouvelles directives des dirigeants actuels. Pas de débit des boissons ouvert avant 15 heures, interdiction de jouer aux petits voyous et des troubles à l'ordre public. Informer la présence des militaires ou policiers qui hésitent de se faire enregistrer. Le transport en commun a repris. Les taxis motos peuvent circuler après 18 heures, chose qui était impossible depuis plus de 2 ans maintenant. Les routes d'approvisionnement de Goma sont rouvertes. Entre espoir et questionnement, Goma pense ses plaies et compte ses morts. Augustin Mossangué, Goma, Radio Vatican.
Et hier, la conférence épiscopale congolaise, la CENCO, a adressé un message de compassion et de solidarité aux populations des provinces du Nord et Sud Kivu. Les évêques congolais qui déplorent une guerre de trop et prient pour les victimes. Selon le ministère congolais de la Santé, les combats lors de la prise de Goma ont fait au moins 773 morts et près de 3000 blessés et forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir la ville. 30 jours de répit pour le Mexique et le Canada. Donald Trump met sur pause sa guerre commerciale en gelant les hausses de droits de douane attendues qui devaient entrer en vigueur ce mardi. Les produits importés des deux pays devaient être taxés à hauteur de 25%, menaçant leurs économies respectives comme celle des États-Unis. Mais le président américain fait donc marche arrière, visiblement satisfait, provisoirement du moins, des concessions obtenues autour notamment de la lutte contre le trafic de drogue. À New York, Loïc Lory.
Une discussion très cordiale avec la présidente mexicaine, un bon coup de fil avec le premier ministre canadien. C'est ainsi que Donald Trump résume les échanges du jour, avec à la clé une pause dans la guerre commerciale qu'il promettait à ses deux voisins. Côté mexicain, Claudia Sheinbaum garantit le déploiement de 10 000 soldats supplémentaires à la frontière pour enrayer le trafic de drogue et les flux migratoires, objectif annoncé du coup de pression économique de Washington. De quoi laisser perplexe le Canada, les arrestations de migrants et les saisies de drogue à la frontière nord étant quantité négligeable, ce qui n'a pas empêché Justin Trudeau, pour contenter Donald Trump, d'annoncer un investissement de 140 millions de dollars. Avec ces menaces, le président américain aura surtout fait paniquer les marchés et plongé dans l'incertitude l'économie de ses partenaires et de son propre pays, en attendant la prochaine échéance de ses droits d'importation dans un mois. New York, le Écloré, Radio Vatican.
Et autres pays concernés par la hausse des tarifs douaniers décidés par Donald Trump, la Chine. Pas de pause prévue à ce jour dans l'application de ces taxes. Et Pékin annonce sa riposte ce matin en annonçant taxer de 10% les importations d'hydrocarbures américains ou encore des machines agricoles. La Chine qui a par ailleurs déposé une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Les nouveaux tarifs douaniers chinois qui doivent entrer en vigueur le 10 février. Les droits de douane, il en a été question hier à Bruxelles également, lors d'une réunion des dirigeants européens. Un sommet qui devait se concentrer avant tout sur la défense commune de l'Union européenne. Mais les menaces de guerre commerciale lancées par l'administration Trump ont dominé l'ordre du jour. Les précisions à Bruxelles de Pierre Benazet.
Les droits de douane à l'encontre de l'Europe, Donald Trump entend absolument en imposer, puisque les Européens sont selon lui de méchantes personnes qui n'achètent aux États-Unis ni voitures, ni hydrocarbures, ni produits agricoles. Pour le président français Emmanuel Macron, la réponse est simple.
Si nous étions attaqués sur les sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir.
Cet avis est partagé par beaucoup, car les droits de douane à l'encontre du Canada et du Mexique sont un réveil pour ceux qui refusaient de croire que Donald Trump passerait de la parole aux actes. Olaf Scholz, chancelier allemand.
En tant qu'espace économique fort, nous pouvons façonner nos propres activités et réagir aux politiques douanières par une politique douanière. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que nous ferons. Mais nous devrions avoir pour perspective et pour objectif d'agir de manière à ce que cela débouche sur une coopération.
Les instruments sont prêts car la Commission européenne a préparé des mesures de rétorsion en recensant tous les secteurs où elle pourrait imposer d'éventuels droits de douane, des mesures miroirs. Reste à voir maintenant si ce discours de fermeté empêchera à lui seul Donald Trump de déclencher une guerre commerciale. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
Une rencontre très attendue à Washington ce mardi où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sera reçu par Donald Trump. Au cœur de leur discussion, l'avenir du cessez-le-feu dans la bande de Gaza mais aussi l'Iran. Israël annonce ce matin envoyer une délégation au Qatar en fin de semaine pour discuter de la poursuite de la trêve. Partons en Syrie où depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, il y a bientôt 2 mois, le contrôle du nord-est du pays par les forces démocratiques syriennes à majorité kurde est de plus en plus contestées, les villes à majorité arabe demandent à être administrées par le nouveau gouvernement intérimaire d'Ahmad al-Shara. Une manifestation d'ailleurs était organisée le week-end dernier à Damas. Le reportage de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
La place des Omeyyades est inondée du drapeau vert et noir de la Nouvelle-Syrie. Des dizaines de familles, pour la plupart originaires du nord-est syrien, se sont réunies là pour demander le départ des forces démocratiques syriennes, comme Mouata et son frère Ahmed, arrivés de Deir ez-Zor.
Nous sommes ici pour demander la libération de l'est de la Syrie, de Deir ez-Zor, de Raqqa. Nous souhaitons que la Syrie soit unifiée, que tous les habitants, tous les organes soient intégrés à la Nouvelle-Syrie. Nous voulons un seul pays, un pays démocratique.
La plupart des familles présentes sont arabes, s'opposent au contrôle des forces démocratiques syriennes à majorité kurde. Sur les réseaux sociaux, les messages hostiles se multiplient quand dans la région, les tensions entre les deux communautés sont de plus en plus visibles, explique Khaled.
Nous attendons du nouveau gouvernement syrien qu'ils expulsent les mercenaires. Nous soutenons Ahmed al-Shara plus que quiconque, car il vit pour l'État, pour le peuple syrien. Nous organiserons des manifestations quotidiennes pour demander leur départ. Et s'il n'y a pas de solution, nous utiliserons les armes.
Plus qu'aux Kurdes eux-mêmes, c'est aux groupes armés du PKK et du YPG que ces Syriens sunnites s'opposent.
Ils sont originaires des monts Candit, d'Irak, d'Iran. Leur nation n'est pas syrienne, ils occupent notre région. Ils nous prennent notre argent, notre pétrole, nos hydrocarbures et nos terres agricoles. La moitié des ressources de la Syrie se trouve dans cette région.
Pour le nouveau gouvernement de Damas, le contrôle des champs gaziers et pétroliers de la région est primordial et sera l'enjeu principal des négociations avec les autorités de l'administration autonome du Nord et de l'Est syrien dans les prochaines semaines. À Damas, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
Le président intérimaire syrien Ahmed al-Shara sera lui en visite en Turquie ce mardi, son deuxième déplacement officiel après l'Arabie Saoudite. Les deux pays qui partagent plus de 900 km de frontières et Ankara comptent bien jouer un rôle majeur dans l'avenir de la nouvelle Syrie. Avant de passer à notre dossier, cette information donnée par le Saint-Père hier, le pape qui devrait publier une lettre ou une exhortation apostolique sur les enfants. Le pape l'a annoncé en concluant un sommet international sur les droits des enfants qui était organisé au Vatican, le premier du genre. Une rencontre internationale qui a permis de rappeler l'importance de protéger les enfants contre toute violence, mais aussi de leur assurer accès à l'éducation ou aux soins. Elle a rassemblé entre autres la reine Rania de Jordanie, l'ancien vice-président américain et prix Nobel de la paix Al Gore, ou encore de nombreux économistes ou hauts fonctionnaires d'institutions internationales. Pour retrouver en détail nos informations sur cette rencontre, une seule adresse, vaticannews.va. Le 1er février 2021, après plusieurs jours de tensions et de contestations des résultats des élections législatives, les militaires birmans s'emparaient du pouvoir, mettant fin à la présidence civile d'Aung San Suu Kyi. 4 ans plus tard, la Birmanie est morcelée, engluée dans une guerre civile dont les populations sont les premières victimes. Plus de 3 millions de personnes ont été déplacées. La junte birmane doit faire face à de multiples fronts de résistance et groupes armés, parmi lesquels les forces de résistance du peuple ou l'armée de l'Arakan. Le gouvernement chassé du pouvoir en 2021 s'organise lui en exil sous la bannière du NUG, le gouvernement d'unité nationale. Alors que le conflit s'enlise, gros plan ce matin sur la Birmanie aujourd'hui, un pays où Pékin joue également un rôle important. Analyse ce matin avec Bénédicte Braque de la Perrière, spécialiste de la Birmanie. Elle est chercheuse au CNRS et au CASE, le Centre d'Asie du Sud-Est à Paris.
Il semble que la junte perd de pied, mais elle reste bien là dans le centre et dans un certain Anepido. Et puis, il y a le Delta, qui reste une base productive agricole importante, qui est encore aux mains des militaires, bien que l'armée arakanaise commence à pointer son nez du côté ouest. Des armées ethniques qui, clairement, ont pour objectif donc une forme d'autonomie de l'Arakan et ont commencé à mettre en place une administration des territoires qu'ils contrôlent désormais. C'est dans les États Shan que les progrès ont été les plus prononcés, et surtout à la frontière. Pratiquement tous les postes de frontière sont désormais aux mains des armées ethniques. Il y a eu des fermetures de frontières, ce qui provoque des réactions du côté chinois, et notamment des fermetures de leur côté à eux. Le reste du pays qui est en fait proie à des combats qui continuent, avec des représailles de la part de l'armée. Ce qu'a fait la Chine, par exemple, pour soutenir le gouvernement militaire, c'est d'envoyer des avions. Ils bombardent tout ce qu'ils ne contrôlent pas, en fait.
L'autre pays qui a une voix à ce chapitre, c'est la Chine. Vous l'avez dit, elle fournit des armes au gouvernement militaire birman. Cependant, ces derniers mois, on a vu un changement de position de Pékin.
Ça correspondait à une demande répétée des Chinois que le gouvernement birman mette de l'ordre dans une zone économique spéciale, celle des Kokang, qui était donc aux mains du gouvernement militaire, où se développait donc l'escroquerie en ligne, une industrie de l'escroquerie en ligne assez massive, qui nuisait aux intérêts chinois aussi. Ça faisait quelque temps qu'il faisait cette demande auprès du gouvernement birman, qui ne bougeait pas. C'est dans ce contexte-là que l'opération 10-27 a commencé, avec, on peut dire, l'accord tacite des Chinois, sinon plus, parce que ça a permis d'arrêter les mafieux les plus en vue.
Pékin entend donc parler à l'armée centrale et aux armées ethniques pour mettre en place un cessez-le-feu, notamment pour défendre ses intérêts économiques. Est-ce que cette position d'équilibriste fonctionne ?
Lorsque la Chine a essayer ensuite, pour que les échanges économiques puissent être rétablis sur ces routes-là, lorsqu'elle a demandé un cessez-le-feu, ce cessez-le-feu n'a absolument pas été respecté et les choses n'ont fait que se développer. Et les gains des armées ethniques ont été en s'amplifiant, et notamment ils ont pris en août dernier la CHIO, qui est le commandement militaire nord de l'armée birmane. Et là, ça a commencé à déranger très nettement les Chinois, à les irriter. Ils ont donc décidé de marquer le pas. Ils ont reproché donc aux 3 armées concernées, ce qu'on appelle la Brotherhood Alliance, qui est à l'origine de l'opération 10-27, d'être l'allié des Occidentaux.
Les armées ethniques ont également pris le contrôle de territoires qui abritent des richesses naturelles aux dépens de l'armée centrale. Est-ce que finalement ces difficultés économiques auxquelles est confrontée l'armée centrale, c'est ce qui peut faire pencher le conflit d'un côté ou de l'autre ?
Des intérêts chinois sur des mines, sur des extractions diverses, sont passés aux mains des armées ethniques qui, effectivement, commencent à manifester la volonté d'en tirer parti. Une partie des terres rares qui sont utilisées par les Chinois dans leur industrie pour les batteries sont dans les mains des armées ethniques et plus difficilement accessibles pour eux. On a l'impression d'un conflit qui ne peut pas se résoudre dans l'immédiat, c'est une guerre civile très dure. L'impression qu'on a, c'est que ni les militaires ni les résistants ont de raison de lâcher quoi que ce soit pour le moment.
Interrogée par Marine Henriot, Bénédicte Braque de la Perrière, chercheuse au CNRS, spécialiste de la Birmanie, était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information en direct, ce sera évidemment à 13h tout à l'heure depuis Rome. Je vous souhaite une excellente journée.